Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous sommes avec la compagnie Laetitia Beaune, en l'occurrence avec Laetitia Beaune elle-même, que nous avons invitée au sein de Radio Primitive pour discuter de son spectacle Forêt, que Laetitia Beaune va présenter au sein de Un été à Reims. Bonjour Laetitia.
Bonjour.
Et merci d'être présente.
Merci à vous.
Laetitia, donc, vous êtes professeure d'EPS depuis 2002. Vous vous formez dans l'enseignement de l'expression corporelle. Vous êtes active dans de multiples projets artistiques au sein de l'éducation nationale. Par la suite, vous vous formez en parallèle au mouvement afro-contemporain. On en discutera un petit peu tout à l'heure. Et vous en faites votre spécialité. En 2021, vous créez votre premier spectacle solo et vous développez vos propres interventions dans des structures socio-culturelles. On en parlera aussi un petit peu par la suite. En 2023, vous finalisez la création de Forêt, donc votre deuxième spectacle que vous faites tourner et que vous développez au Bénin et que vous présentez donc pour l'événement Un été à Reims. Alors, première question, parce que pour certaines personnes, ça pourrait ressembler à une sorte de barbarisme. J'aimerais qu'on parle un petit peu de la définition, si tant est qu'il y en ait une, de l'afro-contemporain. D'après ce que j'ai pu lire, n'étant pas moi-même tout à fait connaisseur de ce genre, de ce style, j'ai cru comprendre que les fondamentaux étaient basés sur le contact avec la nature et une certaine notion de spiritualité. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors l'afro-contemporain, c'est vrai que c'est une écriture chorégraphique méconnue. Pour faire court et synthétiser, on va dire qu'elle s'inspire des énergies et des formes corporelles des danses traditionnelles africaines, de leur rapport au sol, au rythme, au corps et au sacré. Et après, elle vient surtout s'appuyer sur, au même titre que la danse contemporaine, sur les paramètres du mouvement, sur les procédés de composition, afin que l'individu, le danseur, puisse explorer, s'exprimer, afin d'exprimer un propos, de raconter quelque chose. Voilà, ça lui donne une panel, au même titre que la danse contemporaine, mais avec des formes vraiment issues des danses traditionnelles. Alors, c'est très vaste et c'est infini et multiple, mais ça a une écriture quand même chorégraphique particulière.
Est-ce qu'on peut dire que vous puisez quelque part une sorte d'énergie, du sol, de la nature, de l'environnement dans lequel on se trouve, et qu'il y a une base liée à l'environnement dans lequel on pratique l'afro-contemporain qui va vous amener à droite ou à gauche, qui va vous amener à tel style de danse, etc.
Oui, alors de par son essence, les danses traditionnelles africaines, alors ça veut tout et rien dire, hein, c'est un continent immense. Dans chaque pays, il y a peut-être par pays 200 danses traditionnelles différentes qui traitent différentes choses. C'est très vaste. Hein. Et effectivement, moi, ce qui m'attire dans ces formes corporelles dansées, c'est les cérémonies en lien avec la nature. Comment je viens communiquer avec l'eau, avec le feu, avec la terre. Enfin, c'est très riche. C'est vraiment une connexion profonde aux éléments et comment je viens entrer en communication avec elles. Bon, ça, c'est l'essence des danses traditionnelles, voilà, c'est ce qui m'inspire pour la transformation contemporaine, on va dire. Et l'expression de ce que j'ai à dire dans mes spectacles ou dans mes ateliers.
Oui, le lien aux éléments a l'air effectivement important. Dans ce que j'ai lu de votre compagnie, effectivement, vous le soulignez pas mal quand vous parlez de cette sorte de danse, de cette sorte d'art qu'est l'afro-contemporain. J'aimerais revenir sur votre compagnie, toujours une fois de plus par rapport au dossier que j'ai pu lire en ce qui concerne la compagnie que vous avez montée. Vous mettez beaucoup l'accent sur la rencontre avec les publics dits extraordinaires et directement en lien avec le secteur social. Vous évoquez par exemple les IME, instituts médico-éducatifs, les orphelinats, les foyers d'accueil et même d'autres structures avec lesquelles vous avez envie de travailler. En tout cas, ça a l'air d'être une priorité pour vous. Ma question est donc simple, qu'est-ce qui vous pousse à vouloir travailler avec ces milieux ?
Ce qui me pousse, c'est mon cœur. Hein. C'est vraiment mon cœur qui me guide vers eux. J'ai toujours travaillé au sein de l'éducation nationale dans des projets inclusifs avec des élèves en situation de handicap. J'ai toujours travaillé, enfin c'est très naturel hein, en fait, et j'ai toujours été touchée sur le fait de les mettre dans une case à part, alors que j'ai jamais compris pourquoi on est tous là ensemble, on est tous pareils, et voilà, donc je suis attirée vers eux parce que je comprends pas pourquoi ils sont dans une case ou un cadre différent. On devrait tous œuvrer ensemble avec toutes nos différences, enfin, ça nous ferait du bien à tous. Donc voilà, c'est vraiment une envie naturelle qui me guide vers ces publics extraordinaires. Extraordinaires parce qu'ils sont vraiment extraordinaires. Quand on passe du temps avec eux, on apprend beaucoup de choses sur nous aussi, et ils ont beaucoup à donner. Et ils sont, voilà, c'est vraiment un terme qui les définit bien. Et quand j'ai créé ma compagnie, j'ai vraiment eu le désir de développer cet axe-là. Au sein de l'éducation nationale, j'étais plutôt un peu freinée dans ce travail-là, vu que les enfants, les élèves qui se retrouvent dans des collèges ou des lycées conventionnels, on va dire, il y a très peu finalement d'élèves en situation de handicap parce que c'est très mal conçu pour eux. Et voilà, donc on en voit très peu. On en voit, mais on en voit très peu. Et du coup, le fait de créer ma compagnie et de développer ces ateliers d'expression corporelle et de création artistique grâce à la danse, au mouvement, voilà, je me suis tout de suite dirigée vers les IME. Au Bénin, j'ai eu la chance de travailler, le mot est mal choisi, mais j'ai eu la chance d'œuvrer dans un orphelinat en plein milieu de la brousse. Enfin, c'est vraiment là que je me sens le plus utile et où c'est le plus naturel, en fait, d'être avec eux dans ces milieux difficiles. Alors, on parle des publics en situation de handicap, mais pas que, hein, c'est aussi... le handicap, ça peut être la situation de misère, enfin... C'est toutes les situations, on va dire, plus difficiles, où il y a eu moins de chance peut-être, où la vie a fait que c'est un trajet un peu plus chaotique. Voilà.
J'aimerais revenir sur un point que vous avez souligné. On utilise pas mal de mots de vocabulaire. En ce qui concerne certains publics, rien que le terme public, quelque part, il est déjà fort, et on emploie par exemple le terme de public empêché. Il y a tout un vocable autour de la situation de handicap et de ces publics extraordinaires. Est-ce que vous estimez, vous aussi, que l'accès à la culture en général est délicate et difficile, n'est pas très au point en ce qui concerne ces publics ?
Bah oui, c'est une question délicate quand même. Mais ce que j'observe, c'est que oui, l'accès à la culture pour eux, elle est plus difficile. Et le mot empêcher, il est très révélateur parce que c'est la société qui les entoure qui leur empêche finalement l'accès à tout ça. C'est le fonctionnement qui est très bien rangé dans des cases parfaites. Et pour eux, l'accès demande beaucoup plus d'énergie, de choses à mettre en place pour y accéder. Donc... voilà, ça fait partie aussi d'un axe qui est important pour moi, pour ma compagnie, enfin pour nous, hein, avec tous les gens avec qui j'œuvre, d'aller à leur rencontre, d'aller proposer la culture dans leur lieu de vie, quoi. C'est essentiel. C'est trop dur pour eux de se déplacer. Enfin, c'est plus difficile, donc.
Vous parlez d'aller vers. Vous parlez d'aller vers avec cette notion, du coup, peut-être, de se rencontrer. On a discuté avec pas mal de personnes autour de l'événement d'un été à Reims qui avaient l'air relativement tous d'accord sur une direction, c'est-à-dire essayer de casser peut-être la barrière entre l'artiste et le public, entre la personne qui est en démonstration et la personne qui est spectateur, spectatrice. Là, vous vous apprêtez à jouer votre spectacle au parc Pozzo di Borgo, dans le quartier Lanzola, rue de Neuchâtel. Et donc, c'est un endroit de public, un endroit de passage. Même si je me doute quelque part de la réponse, entre autres avec notre discussion précédente et aussi par rapport à ce que vous venez de dire, comment est-ce que vous abordez ce qui peut être encore maintenant considéré comme une expérimentation, une sorte de prise de risque, c'est-à-dire d'être dans un endroit où les spectateurs et spectatrices ne sont pas fixes, ne sont pas assis ou assises à attendre que l'artiste développe son propre art. Est-ce que vous avez une appréhension? Est-ce qu'au contraire vous avez l'habitude? Voir, c'est un souhait? Est-ce une source de joie que d'aller à la rencontre directe du public, peut-être ?
Alors oui, c'est complètement une source de joie. Pour moi, déjà, il n'y a pas de barrière entre... Après, ce n'est que ma vérité. Il n'y a pas de barrière entre l'artiste et le public. On est tous artistes et j'encourage chacun qui a besoin de s'exprimer au travers d'un art, quel qu'il soit, à le faire. Enfin, pour moi, il n'y a aucune barrière. Je ne mets pas l'artiste sur un piédestal. Pas du tout. Et le fait d'être en proximité comme ça dans le parc et sans périmètre aménagé pour l'artiste, enfin d'être vraiment ensemble avec les gens qui vont se promener autour, les enfants, les familles, la vie, c'est pour moi c'est ce qu'il y a de plus naturel et enfin ça me pose aucun problème et au contraire je suis très contente de ça. Et ça ne me fait pas peur du tout. Et du coup, en disant ça, je pense aussi au fait que, en plus, le public ne sera pas pris en otage par le spectacle. Si ça ne lui plaît pas, il pourra s'échapper. Donc, ça va. Enfin, c'est très bien. C'est très libre et ça me va bien. Et tout le monde y trouve son compte. Et voilà. C'est plutôt quelque chose dont j'ai l'habitude. Où j'ai pu expérimenter ça d'ailleurs au Bénin, où j'ai joué Forêt dans des conditions incroyables, mais c'était les meilleures présentations du spectacle, ça c'est sûr.
Bon bah je pense que l'idée est relativement claire. Pour celles et ceux qui seront le 8 septembre, soit à 15h, soit à 17h, ou même les deux, au parc Pozzi di Borgo, rue de Neuchâtel, pour l'occasion d'un été à Reims et pour Forêt de la compagnie Laetitia Bonne, n'hésitez pas à vous poser, n'hésitez pas à venir, vous en allez revenir si vous avez l'envie. En tout cas, ça a l'air relativement ouvert pour Laetitia Bonne. Je le répète, vous pourrez la retrouver le 8 septembre à 15h et à 17h au parc Pozzo di Borgo, rue de Neuchâtel. Tel à Reims pour l'événement Un été à Reims. Merci beaucoup, Laetitia Bonne, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.